Je vous invite à suivre une dernière lecture qui sera utilisée par Jonathan pour le message. Donc, au chapitre 18, Luc 18, à partir du verset 18. Page 59. Nous lirons jusqu'au verset 34. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis, viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et, après l'avoir battu de verges, on le fera mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisirent pas le sens. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ces paroles que nous avons pu lire, riches, ces paroles qui nous rappelle que tu offres la vie éternelle. Merci pour ce texte que nous allons entendre, cet message, cette prédication de Jonathan. Guide-le aussi dans ce qu'il nous a enseigné et dispose nos cœurs à l'écoute. Amen.
Merci beaucoup Norbert. Je vous invite à garder ce texte ouvert à la page 59. De vos évangiles de Luc, pour revenir sur cette question, qui est après tout une question essentielle. Que dois-je faire pour avoir, pour hériter la vie éternelle ? J'aimerais commencer en vous demandant, que pensez-vous de ces propos de l'humoriste Woody Allen, à propos de la vie éternelle, à propos de l'au-delà ? Il dit, ce n'est pas que j'ai peur de la mort, j'ai juste pas envie d'être là quand ça m'arrive à moi. C'est pas que j'ai peur de la mort, j'ai juste pas envie d'être là quand ça m'arrive à moi. Ben, je pense qu'il résume pas mal notre attitude face à l'au-delà. En théorie, on se veut tous rationnels, rassurés. J'ai pas peur de la mort. Mais en pratique, nous sommes tous, je pense, obligés d'admettre que dans chacun de nos esprits, il y a quand même un petit point d'interrogation qui demeure. Certains de nous ce matin sont peut-être optimistes par rapport à la vie éternelle. On pense qu'on a peut-être fait assez. Pour d'autres, nous sommes simplement sceptiques. On doute que ça existe tout court. Mais au fond de nous, quand ça dépend de nous, aucun de nous ne peut être sûr. Personne ici n'a fait l'aller-retour au-delà de la mort pour aller voir ce qu'il y a et pour revenir renseigner les autres. On ne sait pas. Et c'est bien là le problème. Eh bien, à côté de nos tâtonnements, de notre incertitude, je trouve la certitude de Jésus-Christ. Dans les paroles que nous venons de lire, la certitude de Jésus-Christ concernant la vie éternelle, je la trouve assez déconcertante. Une certitude comme cela, en mon expérience, on la retrouve chez deux types de personnes. Les experts et les escrocs. Et ce que j'aimerais vous inviter à faire ce matin, c'est simplement de revenir sur ces paroles et de demander quel est votre avis. À vous de juger, qui est Jésus-Christ? Est-ce qu'il est un expert? Est-ce qu'il sait vraiment de quoi il parle quand il s'agit de l'après et de l'au-delà? Est-ce que c'est quelqu'un que nous avons besoin et intérêt à écouter? Ou est-ce qu'il est tout simplement parmi les plus gros escrocs de l'histoire de notre monde? C'est ça le défi que je place devant vous ce matin. Mais reprenez vos évangiles et revenons sur cette histoire. Et j'aimerais que vous regardiez avec moi le protagoniste de cette histoire. Verset 18, donc la page 59 de vos évangiles. Verset 18 au milieu de la page de droite. Parce que moi, si j'étais Dieu, cet homme, ce protagoniste, il serait simplement pour moi mon candidat parfait, idéal pour la vie éternelle. Regardons ses atouts. Verset 18, un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Attention, nous n'avons pas affaire ici à n'importe qui, nous avons affaire à un chef, un cadre de la société, un membre de l'élite. Et vu le contexte, ça veut dire qu'il n'est pas seulement quelqu'un d'influent, il est aussi quelqu'un d'instruit, instruit dans la philosophie, dans les écritures et dans le droit. Plus loin, verset 23, regardez bien, nous lisons qu'il était en plus très riche. À notre époque, être riche, c'est peut-être plus un défaut qu'une qualité, mais à leur époque, à l'époque de cet écrit, être riche, c'était forcément être béni par Dieu. Si on est riche, c'est que Dieu nous a bénis à cette époque-là. Mais en plus d'être influent et respecté en tant que chef, en plus d'être instruit dans les Écritures, entre autres, en plus d'être riche, regardez l'argument qui tue en ce qui concerne la vie éternelle, verset 20, verset 21. Cet homme est religieux, il est bon, il est moral, il a gardé les 10 commandements. Verset 20, Jésus lui dit, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Verset 21, incroyable. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Est-ce que vous serez capable de dire cela lors d'une face-à-face avec Jésus-Christ? Moi, je n'en serais pas capable. Cet homme, pourtant, il peut le dire, et a priori, c'est quelqu'un de sincère. Mesdames, vous avez devant vous le gendre parfait. Il est respecté, influent, instruit, riche, et en plus, il est bon. C'est quelqu'un de moral, c'est quelqu'un de religieux. Et c'est justement là le scandale de cette histoire, c'est justement là le drame, parce que cet homme, malgré ce dossier parfait, il repart d'une rencontre avec Jésus, les mains vides. Il n'aura pas la vie éternelle que vous et moi lui aurions donnée. Vous voyez ça, verset 23, il repart très triste. D'où la question de tout le monde, d'où notre question peut-être aussi, verset 26. Regardez bien cette question. Ceux qui l'écoutaient dire, et qui peut être sauvé ? Qui peut être, c'est un type comme ça, avec toutes ses qualités, qui est même religieux. Si quelqu'un comme ça ne peut pas être sauvé, ben qui peut avoir la vie éternelle? Réponse de Jésus, verset 27, personne. Absolument personne. Regardez verset 27. Jésus répondit, ce qui est impossible aux hommes. Et cependant possible à Dieu. Vous voyez, il nous est impossible, d'après Jésus-Christ, d'obtenir par nous-mêmes la vie éternelle. Pourquoi? Parce que comme cet homme, vous et moi, nous avons deux gros problèmes. Est-ce que vous les voyez, les deux gros problèmes de cet homme? Premier problème, il est dans la question qu'il pose au verset 18. Il a le problème de tous les gens qui réussissent, en fait, dans ce monde. Vous savez, la plupart de nous, on va passer peut-être la plupart de notre vie, peut-être la plupart de notre semaine, à vouloir obtenir ce que cet homme a obtenu. Richesse, intelligence, respect, influence, bonté. Et tant qu'on ne les a pas obtenus, on ignore un secret terrible. C'est un secret que seulement une petite minorité des gens qui ont vraiment réussi découvrent vraiment. C'est quoi le secret ? Le secret, c'est que l'influence, la richesse, l'intelligence et la bonté ne nous rendent pas immortels. Ne nous rendent pas immortels. Ne tiennent pas leurs promesses. On travaille à fond, on les obtient, c'est génial, il n'y a aucun doute, l'euphorie est là. Mais obligatoirement, quelques temps après, on se réveille un jour et on se rend compte, on est toujours la même personne. On est toujours la même personne, on est toujours un être humain mortel comme un autre. Malgré son succès, malgré sa religion, cet homme demeure dans l'incertitude. Verset 18, il doit quand même venir à Jésus et dire, que dois-je faire ? Il a tout fait cet homme, et pourtant il vient et dit, que dois-je faire pour être sûr ? Pour être sûr. Et c'est ça qui est terrible avec la religion. On ne peut jamais être sûr. On ne peut jamais être sûr. Parce que verset 19, comme Jésus le rappelle, il n'y a de bon que Dieu seul. Et donc pour cet homme, comme pour nous, comme pour le poète García Lorca, poète espagnol, la muerte es la pregunta de las preguntas a la que no hay respuesta. La mort, c'est la question des questions à laquelle il n'y a point de réponse. Et on le sait bien sûr qu'on le sait. Mais ça ne nous empêche pas d'être comme Alaric, de se croire malgré tout immortel. On pense toujours que voilà, la mort, ça n'arrive qu'aux autres. Mais je vous le garantis, si nous pouvions convoquer ici, dans un an, tout le monde qui est présent ici, si on pouvait se retrouver d'ici un an, il y aurait des absents. Il y aurait des absents, peut-être vous. Peut-être moins. On ne sait pas. Et c'est là la première raison pour laquelle nous ne rendons pas la vie éternelle, parce que nous ne maîtrisons pas notre destin. Nous ne maîtrisons pas notre destin. Deuxième raison pour laquelle cet homme n'aura pas la vie éternelle, c'est que simplement, il ne conçoit pas mieux que ce monde. Il ne conçoit pas que la vie éternelle que Jésus offre puisse être meilleure que ce que ce monde lui a déjà offert. C'est ce que nous voyons dans la suite du texte. Regardez, verset 22, c'est extraordinaire. Jésus lui offre la chose qu'il est venu chercher auprès de lui et cet homme va le refuser. Regardez, verset 22. Jésus ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose, juste une chose. Vends tout ce que tu as distribué aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Voilà dit Jésus. Une chose, une seule chose pour compléter le palmarès. Une seule démarche pour être comblé, pour avoir ce que tu recherches depuis tant d'années, d'avoir la vie éternelle. Regardez la certitude de cette phrase. Tu auras la vie éternelle. Pas de doute. Et qu'est-ce qu'il dit l'homme ? Verset 23. Lorsqu'il entendit ces paroles donc, il bondit de joie et s'exclama, enfin la réponse à ma question, enfin ce que je cherche depuis tant d'années. Non. Si vous ne regardez pas le texte, ce n'est pas ça le verset 23. Le verset 23 nous dit, lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez, le deuxième problème de cet homme est là. Il n'imagine pas mieux que ce monde. Il n'imagine pas que ce que Jésus lui offre puisse être meilleur que ce que ce monde et ses richesses ont su lui donner déjà. Vous voyez, devant le choix vie éternelle ou ton train de vie actuel, il n'y a pas photo pour cet homme. Il n'y a pas photo et c'est dommage parce qu'il a voulu cette vie éternelle. Et il est venu à Jésus parce qu'il sentait que Jésus lui offrait ce que sa réussite terrestre n'a pas su lui donner. Mais si la vie éternelle après la mort va être au prix de mon train de vie actuel, ça ne va pas le faire. Ça n'est pas possible. Alors s'il vous plaît, ne comprenez pas mal ce texte. Jésus n'est pas en train de dire que nous devons tous faire vœu de pauvreté, et nous renfermer dans un monastère pour avoir la vie éternelle. Ce n'est pas ça le but du jeu ici. En fait, au chapitre suivant, si vous lisez cet évangile, et j'espère que vous reprendrez cet évangile chez vous et vous le lirez, il vous est offert. Si vous lisez la suite, vous verrez juste au chapitre suivant que Luc nous raconte la conversion de Zachée à un homme d'une richesse assez effarante. Non, le problème de cet homme, ce n'est pas un problème d'argent. L'argent, ce n'est qu'un symptôme, d'accord ? La maladie est ailleurs. La maladie est son incapacité de concevoir mieux que ce monde. Et comment lui en vouloir ? Comment lui en vouloir ? Sa vie, c'est le rêve, il est comblé. Influence, respect, richesse, intelligence, bonté. À côté de ça, la vie éternelle, c'est anecdotique. C'est un détail. Et c'est pour cela qu'il nous est impossible, nous aussi, d'avoir la vie éternelle. Parce qu'on ne maîtrise pas notre destin et parce qu'on ne conçoit pas mieux que ce que ce monde peut nous offrir. La mort, elle est la question des questions. Et nous n'avons pas de réponse. Et puis, nos ambitions, nos objectifs sont exactement ceux de cet homme. Et c'est pour cela que nous ne parviendrons pas à la vie éternelle. Si c'est vous, j'aimerais tellement vous demander de regarder à l'instant à Jésus-Christ. Regardez les deux promesses qui se trouvent dans les versets qui suivent. Elles sont sans doute les promesses les plus extraordinaires jamais faites par un homme. Jésus promet deux choses dans les versets qui suivent, jusqu'au verset 33. Il promet d'abord, tenez-vous mieux que ce monde. Et il promet ensuite la maîtrise du destin, la maîtrise absolue et incontestée de la vie et de la mort. Et c'est ainsi que nous voyons, verset 27, comment ce qui est impossible aux hommes devient possible à Dieu en Jésus-Christ. Donc, suivez avec moi, verset 28, on s'interroge sur les paroles de Jésus, ce sont des paroles assez perturbantes pour ceux qui ont choisi de suivre Jésus, et donc ils se posent la question, est-ce qu'on a fait le bon choix finalement en suivant Jésus ? C'est ça la question de Pierre au verset 28, et c'est là que Jésus intervient avec sa première promesse. Verset 29, regardez cette promesse, il promet simplement mieux que ce monde, mieux que ce que monde peut offrir pour ceux qui choisissent de le suivre. Verset 29, regardez avec moi, Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, c'est-à-dire à cause de Jésus, à cause de la vie éternelle, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Pesons un instant l'énormité de ces paroles. Est-ce que je peux vous demander juste un instant d'imaginer à quoi ressemblerait votre vie ce matin sans ces choses-là ? Enlevez un instant de votre vie la personne que vous aimez le plus, votre partenaire, votre conjoint. Enlevez vos enfants, si vous en avez. Enlevez ensuite votre maison, votre métier, votre vie professionnelle. Et maintenant, répondez à la question de Jésus. Pouvez-vous aujourd'hui imaginer, concevoir quelque chose de mieux, quelque chose de plus important, de plus précieux que tout cela réuni ? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde contre laquelle vous seriez prêt à échanger tout cela ? Si la réponse est non, vous ne pouvez pas non plus imaginer ce que Jésus-Christ offre à ceux qui choisissent de le suivre. En fait, si vous pouvez imaginer mieux que la vie avec Jésus-Christ, vous pouvez être 100% sûr de n'avoir toujours pas compris qui il est vraiment. Il y a quelques jours, un ami m'a demandé, il m'a dit, Jean, attends, franchement, qu'est-ce que ça change pour toi de connaître Jésus ? Qu'est-ce que ça change vraiment pour toi aujourd'hui ? Et pour tout vous dire, j'ai pas su par où commencer. Il y a tellement de raisons, oui. Ça veut dire que j'ai plus peur de la mort, comme l'a dit Alaric. Ça veut dire que je sais où je vais après. Mais ça veut dire aussi que je n'ai rien à prouver à personne aujourd'hui. Ça veut dire que ma valeur, mon identité ne dépend pas de mes performances. Ça veut dire que j'ai la conscience en paix, que je dors bien la nuit, que le poids du regret, de la culpabilité du passé m'est ôté grâce à Jésus. Ça veut dire encore que je me sais aimé d'un amour inconditionnel qui ne changera jamais. Ça veut dire que je suis libéré de cette prison du moi. Ça veut dire que je ne vis plus aujourd'hui sous l'obligation de satisfaire à chacun de mes désirs, d'être obsédé par ma réputation, mes projets. Ça veut dire que j'ai été adopté dans une famille nouvelle. Ça veut dire que Dieu lui-même se soucie de moi. Il connaît le nombre de cheveux sur ma tête. C'est un nombre qui diminue, certes, mais il les connaît. Ça veut dire que Dieu, il est à l'œuvre en moi. Il s'est engagé en moi. Il est en train de me changer, de me transformer, pas superficiellement, mais en profondeur, jour après jour. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Vous voyez, Jésus, je n'ai pas le temps d'aller plus loin. Si vous voulez en parler plus, je pars volontiers après. Mais comprenez, s'il vous plaît, que Jésus offre, il promet mieux que ce monde. Il promet les choses que ce monde ne peut pas nous donner. Ce que nos esprits réclament et désirent au plus profond de nous. S'il vous plaît, comprenez ceci ce matin. Suivre Jésus, ce n'est pas pénible, ce n'est pas contraignant, ce n'est pas frustrant, c'est mieux. C'est mieux que tout ce que ce monde peut nous offrir. Et regardez bien aussi le verset 30 et remarquez que Jésus n'est pas en train d'offrir misère maintenant contre bonheur après. Parce que c'est souvent ça, n'est-ce pas, notre conception de la religion. Ennui, privation maintenant, et puis peut-être qu'on aura le bonheur après. Et forcément, devant ce choix, on préfère tous saisir l'instant présent, s'éclater aujourd'hui, et puis bon, après il s'occupera de lui-même. Mais ce n'est pas la conception de Jésus-Christ. Jésus promet au verset 30, beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Vous voyez, Jésus est en train de dire, ça paraît complètement fou peut-être, mais il est en train de nous dire la meilleure manière de saisir l'instant présent, c'est de le suivre, c'est de le connaître. La meilleure manière de profiter de la vie, c'est de connaître le fabricant. C'est de connaître la personne qui comprend, qui gère, qui contrôle ce que nous ne contrôlons pas. Bonheur, le sens de la vie, l'après. Mais si vous voulez, par rapport à ce qui va suivre maintenant, par rapport à la deuxième promesse de Jésus, qui vient dans les versets 31 à 33, tout cela, c'est un détail. C'est un détail, c'est rien. Parce que si la promesse de mieux que ce monde peut nous donner en vie, la promesse que Jésus fait ici dans les versets 31 à 33, est une promesse qui oblige chaque être humain, qui que nous soyons, à prendre ce Jésus-Christ très au sérieux, parce que ce qu'il va promettre maintenant, vous l'avez vu dans les versets 31 à 33, il va promettre simplement la maîtrise absolue du destin, la maîtrise de la vie et de la mort. Regardez, verset 31, Jésus prit les 12 disciples auprès de lui et leur dit, « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. » Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, et après l'avoir battu de fer, on le fera mourir. Et le troisième jour, il ressuscitera. Attendez deux instants, je ne suis plus. Moqué, outragé, craché dessus, battu et enfin tué. Si ça c'est mieux que ce monde et la maîtrise de la vie et de la mort, je ne suis pas convaincu. Sincèrement. Et c'est souvent ça que nous retenons de Jésus, n'est-ce pas? Ça, c'est le Jésus des crucifixes que l'on voit autour des coups, c'est Jésus des vitres dans des églises. Une vie exceptionnelle, certes, quelqu'un d'extraordinaire, mais qui a si mal fini. Si mal fini. Pauvre Jésus, quelle tragédie. Dommage, dommage. Mais vous savez quoi? Rien ne pourrait être plus loin de la réalité de la Bible. En fait, regardez bien ces paroles et vous verrez que la mort de Jésus sur la croix, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une tragédie, ce n'est surtout pas une surprise. Parce que voilà Jésus comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la partie de la Bible qui précède Jésus des siècles avant. tous les prophètes, comme Jésus lui-même, à quelques mois de sa propre exécution, eh bien, il annonce cette mort. Il dit, voilà les gars, nous montons à Jérusalem, voilà où nous allons. Il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de hasard. Et vous voyez pourquoi il y va ? Vous voyez ce qu'il est en train de faire ? Sciemment, avec préméditation, il choisit de mourir. Il choisit d'affronter publiquement l'échéance suprême de chaque être humain. Il va aborder la question des questions à laquelle il n'y a pas de réponse. La mort. Pourquoi ? Pour faire un beau geste ? Pour donner un exemple noble pour nous ? Non. Fin du verset 23. Voilà pourquoi il va le faire. Et le troisième jour, il ressuscitera. La résurrection de Jésus-Christ, c'est simplement une démonstration historique, empirique, de sa maîtrise absolue de la vie, de la mort et du destin. Vous voyez ici, il ne va pas juste subir la mort, il va la battre, il va l'humilier, il va la traîner en spectacle, afin que vous et moi n'ayons plus à la craindre. Est-ce que nous le comprenons cela ? Mes amis, nous ne maîtrisons pas notre destin. Mais si nous n'avons pas de réponse à la mort, Jésus-Christ en a une. Sa résurrection, si vous voulez, ferait un chemin sûr au-delà de la mort, à travers la mort. Et il offre maintenant à quiconque le souhaite de les prendre par la main et de les accompagner sur ce chemin aussi. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Regardez à Jésus. Suivre Jésus, c'est le seul qui maîtrise la vie, la mort et le destin. Est-ce que nous voyons ce que Jésus promet mieux que ce monde ? Et la maîtrise de la vie et de la mort. Et voilà la question. Question de départ, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est des faits historiques ? Ou est-ce que ce sont des fables ? Question vitale. Jésus parle-t-il en expert ou en escroc ? C'est à vous de juger. Où en sommes-nous ? Est-ce que ce matin nous oserons demander plus à la vie que ce monde offre ? Et puis très honnêtement, avons-nous une réponse à la mort ? Si la réponse est non, est-ce que je peux vous supplier ? Vraiment vous supplier de reprendre cet évangile, de repartir avec cet évangile chez vous et de l'examiner. De l'examiner pour vous-même. Si ce que nous venons de lire contient un grain de vérité, rien n'est plus important, rien n'est plus urgent pour nous ce matin. Vous savez, aujourd'hui, il paraît qu'il y a des élections. Et si on en croit les médias, ce sont souvent des questions superficielles qui vont influencer notre vote. Notre humeur, une polémique, un fait divers récent, les derniers chiffres sur le sondage, les tics du président, c'est peut-être amusant, mais c'est dommage si ça nous fait oublier l'essentiel. Et vous voyez, dans la vie, c'est souvent la même chose. On confond parfois l'urgent et l'important. Le superficiel nous bouffe et on néglige l'essentiel. Mes amis, les affirmations de Jésus-Christ concernent l'essentiel, concernent la vie et la mort. Et c'est pourquoi je voudrais vraiment vous encourager à continuer cette réflexion. Lire cet évangile pour vous-même, parlez-en avec un ami. Jésus promet mieux que ce monde, promet la maîtrise totale et absolue de la vie. Et la question ce matin, c'est qu'est-ce que vous faites de cette offre ? Qu'est-ce que vous faites de cette proposition ? Prenez le temps de répondre vous-même. Ces questions sont trop importantes pour qu'un autre en juge à votre place. Bon, j'aimerais vous inviter à prier pour finir. Prenez ces évangiles, si cela vous intéresse, parlez avec un ami. Si quelqu'un aimerait savoir comment exactement on accepte cette offre, s'il vous plaît, venez, parlez-en avec moi à la fin, je serai ravi de vous aider. Sinon, je vais prier pour finir ce temps. Notre Père, merci pour le Seigneur Jésus, merci pour ses paroles incomparables. Merci pour la promesse de mieux que tout ce que ce monde peut offrir. Merci de la promesse et la preuve historique de la résurrection, de la maîtrise absolue de la vie. S'il te plaît, aide-nous chacun à prendre la mesure de ces affirmations et puis à voir dans quelle mesure elles sont vraies, dans quelle mesure nous devons en tenir compte dans nos vies de tous les jours. C'est en le nom de Jésus que je te le demande. Amen.